Nous prenons la parole dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15. Matthieu chapitre 15, et ensuite nous prendrons le psaume 15. Seigneur, merci pour ta parole qui donne la vie, qui transforme, Seigneur de gloire, qui restaure. Ce matin encore, nous nous attendons à toi, Seigneur de gloire, et nous comptons sur toi, Seigneur, car nous croyons que dans ton amour et dans ta fidélité, tu es au milieu de nous, Seigneur de gloire, par ton Esprit Saint. Merci de convaincre nos cœurs, Seigneur de gloire, de péché, de justice et de jugement, afin que réellement nous soyons des enfants de Dieu. Que ton nom soit béni, Papa, au siècle des siècles. Amen. Matthieu chapitre 15, nous lisons à partir du verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point. Amen. Psaume 15. Verset 1er. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Amen. Non pas selon ses convictions, mais qui dit la vérité selon son cœur. Quelquefois, nous pouvons avoir des convictions, même avec sincérité, mais qui ne reflète pas forcément la vérité. Les convictions ne sont pas égales à la vérité. La conviction peut être due à une impression personnelle, mais qui peut différer en fonction de l'individu. Mais la vérité, elle, on ne peut pas la changer. C'est pourquoi, même lorsque on nous reproche ou qu'on nous reprend par rapport à une chose quelconque, même si au fond de nous, on n'a pas forcément l'impression qu'on a mal fait, mais si nous pouvons nous humilier et reconnaître que oui, mais que la Bible appuie la remarque qu'on nous a faite, on proclame cette vérité. Et c'est cette vérité-là qui sauve, celle qui vient du cœur. Alors, le Seigneur, dans Matthieu 15, dit que c'est ce qui sort de la bouche qui vient du cœur, ce qui vient du cœur, qui sort de la bouche, c'est ça qui souille. Mais ce n'est pas ce qui entre. Et là, dans ce passage de psaume 15, on nous dit que seuls ceux qui ont le cœur pur, ceux qui parlent selon la vérité dans leur cœur, pourront séjourner sur la montagne de Dieu, pourront séjourner dans la tente de Dieu, dans la maison du Seigneur. Alors nous comprenons à travers ces deux passages, l'enjeu qui est là, c'est avant tout la transformation du cœur, parce que c'est le cœur qui intéresse le Seigneur. Ce n'est pas notre apparence, comme l'homme aujourd'hui peut juger en fonction de l'apparence, peut aimer en fonction de l'apparence. Mais lui, le Seigneur, il regarde au cœur, car c'est le cœur, l'état du cœur qui déterminera si nous sommes aptes ou pas à entrer dans le ciel. La ressemblance à Jésus-Christ, telle que nous la voulons tous, cette matérialisation à travers notre témoignage, à travers nos actes, à travers nos paroles, eh bien, viendront du cœur. Donc ce qui sera déterminé par le cœur se produira aussi physiquement. À partir de nos actes physiques, on pourra déterminer qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de l'un ou de l'autre. S'il y a la colère qui se manifeste par un coup, en parlant plus fort, en criant, bien-aimé, eh bien, le fait d'avoir donné le coup ou le fait d'avoir crié n'est que la conséquence de ce qu'il y avait dans le cœur. Donc la production physique n'est que ce que nous voyons physiquement n'est que la production de ce qu'il y avait au fond du cœur. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que les adultères, les meurtres, tout cela vient du cœur. C'est pourquoi nous devons travailler à garder un cœur pur. C'est ça, bien-aimé, qui sauve. Ce n'est pas les actes que nous pourrons faire apparemment devant les hommes, qui pourront tromper les hommes, mais qui ne tromperont pas Dieu. Mais bien-aimé, viendra un jour où le Seigneur justifiera clairement, comme il est écrit dans Malachie, ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Un jour, le Seigneur amènera à la lumière ce qui était caché dans les cœurs. Ainsi, nous pouvons tous dire que nous sommes enfants de Dieu, mais le Seigneur amènera les choses concrètement pour déterminer qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Et le Seigneur le fera non seulement sur cette terre, mais aussi lorsque tout sera terminé lors du jugement, dont il rendra les choses évidentes de manière à ce que personne ne pourra se justifier. Quelquefois, nous nous justifions devant les hommes. Il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Tu es sûr? Non, il n'y a pas de problème. Le Seigneur va créer une situation, une circonstance qui va faire remonter à la surface qu'en réalité, il y avait un problème. Nous pouvons le cacher devant les hommes, mais Dieu qui est amour est aussi juste. Et dans cette justice, il amènera toutes choses claires. C'est pourquoi il est dit dans le psaume 34 que si nous nous confions en l'Éternel, alors il fera paraître notre justice comme le soleil à son midi. Le soleil à son midi, c'est là où il brille, là où il chauffe. Il est évident que le soleil est là, il est visible. Et Dieu dit que cette justice-là, il la fera paraître de cette même manière. Ça sera évident aux yeux de tous, que personne ne pourra nier, que personne ne pourra dire que ce n'est pas vrai. Le Seigneur dit aussi qu'il envoie une puissance d'égarement. Et dans cette puissance d'égarement, de ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas, leurs actes vont commencer à témoigner clairement qu'ils ne le sont pas. Et malheureusement, les personnes qui sont dans la puissance d'égarement ne se rendent même pas compte. Aussi bien leurs fautes sont évidentes aux yeux de tous, mais ils continuent à prétendre qu'ils sont enfants de Dieu. Et Dieu fera les choses ainsi, ça fait aussi partie de son jugement. Mais comprenons bien aimé que ce que le Seigneur veut, ce qui lui intéresse, c'est l'état de notre cœur, car c'est le cœur qui nous justifiera devant le Seigneur. Et tant que nous sommes sur la terre, le Seigneur travaille à ce que nos cœurs se purifient. Et pour purifier nos cœurs, le Seigneur va utiliser toutes sortes de circonstances et d'événements pour faire remonter à la surface, non pas forcément bien aimé pour nous condamner ou pour nous humilier, mais aussi pour nous amener à changer. Lorsque la Bible dit que c'est lui seul qui sonde le cœur et le rein, c'est parce que seul le Seigneur est capable de nous dire à nous-mêmes ce qu'il y a au fond de notre cœur. Quelquefois, nous sommes surpris des réactions que nous pouvons avoir, que nous pouvons manifester. Nous sommes surpris, quelquefois, de tomber dans un péché que, sincèrement, on pensait avoir abandonné. Eh bien, le fait que cette chose remonte à la surface et se manifeste physiquement, le Seigneur nous montre que non, le problème est encore là. Mais lorsqu'il le permet, ce n'est pas forcément pour nous condamner ou nous juger, mais c'est pour nous dire, tu dois encore changer cette chose-là. Et des fois, on croit se connaître, mais Dieu va nous montrer que non, lui nous connaît mieux que nous-mêmes, car lui seul sonde le cœur et le rein, même le nôtre personnellement. Nous lisons Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésias 7, à partir du verset 13. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du malheur, sois heureux. Et au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Voilà ce que nous dit la Bible. Regarde ce que Dieu, l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Ça veut dire que, observant l'œuvre de Dieu et comprenant que personne ne peut le changer, ce que Dieu a créé est parfait. Dieu a créé les choses avec sa sagesse. Ce que Dieu a créé est bon et il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Personne ne peut courber, personne ne peut redresser ce que le Seigneur a fait. Et au verset 14, il nous est dit que le jour du bonheur, alors réjouissons-nous, soyons heureux. Et le jour du malheur, réfléchissons. Et le Seigneur dit que le bonheur comme le malheur, lui, il les a fait dans la même pureté, avec la même sagesse. Dieu a créé ces choses-là exprès pour que l'homme ne sache pas ce qu'il viendra après lui. Au jour du bonheur, bien-aimé, on a l'impression que souvent ça va rester éternellement. Au jour du bonheur, on ne se préoccupe pas forcément de ce qui sera demain. Nous sommes occupés, plongés dans ce que nous vivons aujourd'hui. On ne pense pas au demain. Quelquefois, le bonheur nous fait eux-mêmes oublier les malheurs d'hier. Parce que nous sommes dans un état que nous ne voulons pas quitter. Combien de fois, bien-aimés, lorsqu'on est venu nous réveiller, soit par le téléphone, soit par un bruit quelconque, alors qu'on était en train de faire un beau rêve, on ne voulait pas être réveillé. On a quelquefois envie que les rêves durent éternellement. Et quand on nous réveille, quelquefois, on est déçu. Et l'homme est comme ça. Au jour du bonheur, il oublie que le lendemain aussi existe. Il a l'impression que le bonheur sera éternellement. Alors Dieu dit qu'il a créé le malheur, de la même manière qu'il a créé le bonheur, afin que nous ne sachions pas ce qui sera après nous. Alors, pendant que nous sommes dans le bonheur et que le malheur vient frapper, nous sommes tout étonnés. Parce que dans notre calcul, les choses n'étaient pas ainsi. Les gens qui étaient dans l'abondance avant la crise économique ne pensaient pas que la crise allait venir et les bouleverser ainsi. Mais lorsque la crise arrive, ils réalisent que finalement, est-ce que j'étais vraiment dans le bonheur? Est-ce que c'était vraiment ça le bonheur? Et ainsi, on commence à réfléchir, à se préoccuper du lendemain. Ainsi, même lorsqu'un autre bonheur viendra, on aura quand même le souvenir que, attention, le malheur peut aussi venir. Et là, on se prépare en conséquence. Et là, on fait les bons choix. On reste, comme on dit, les pieds sur terre. On ne va pas trop loin. Parce qu'on sait que l'un ou l'autre existe et ça peut arriver à un moment ou à un autre. Et la Bible nous dit que personne ne peut changer cela. Donc, bien-aimés, armons-nous de cette pensée. Aujourd'hui, nous pouvons être dans le bonheur. Mais sachant qu'un jour, nous connaîtrons le malheur. Car Dieu dit qu'il a créé l'un comme l'autre. Et ça, personne ne peut le changer. Tant que nous serons sur cette terre, bien-aimés, attendons-nous à vivre aussi des malheurs. Personne ne pourra le changer. Et dans le bonheur comme dans le malheur, le Seigneur utilise ces choses-là afin aussi de purifier nos cœurs. Lorsqu'on est dans l'abondance, nos réactions, notre vie témoignera de la sincérité et de la pureté de notre cœur. Est-ce que nous sommes attachés à l'argent ou est-ce que nous mettons le Seigneur au-dessus de tout? Lorsque le malheur viendra, nos réactions, nos choix, nos décisions démontreront si réellement nous sommes attachés à Dieu. Est-ce que le malheur est beaucoup plus grand que l'amour de Dieu ou bien est-ce que nous aimons Dieu malgré tout ce que nous vivons? Dieu a fait l'un comme l'autre et dans l'abondance comme dans la disette, le Seigneur fera manifester clairement ce qu'il y a dans nos cœurs. Parce que ce qui intéresse le Seigneur, c'est que nos cœurs soient purs car il n'y a que de cette manière que nous pouvons hériter du royaume des cieux. Dieu a fait l'un comme l'autre, bien-aimé. Nous lisons Jérémie chapitre 17. Jérémie 17, à partir du verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Amen. Le cœur de l'homme est tortueux. Le verset 7 nous donne une des promesses du Seigneur. Il dit que celui qui se confie en lui, celui qui met dans l'Éternel toute son espérance, toute sa confiance, celui qui confie toute sa vie à Dieu, finalement ne manque de rien. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Il ne manque de rien. Et la suite de ce passage nous dit, mais malgré tout, par-dessus tout, le cœur de l'homme est tortueux. C'est une exclamation qui étonne le Seigneur. C'est une exclamation quelquefois qui nous a même étonnés à un certain niveau. Comment alors que les promesses sont accessibles pour tous, l'homme refuse de vivre ses promesses qui vont lui faciliter la vie. Nous avons expérimenté quelquefois au milieu de nous des personnes étant dans une certaine aisance, étant dans un certain bonheur, finalement faire des choix qui sont contradictoires à sa situation. Des personnes qui sont dans l'abondance et qui finissent par se suicider. D'autres personnes qui sont en couple, mariées, ensemble depuis 20 ans peut-être, depuis 30 ans, ils ont des enfants et on apprend que le mari divorce pour aller avec un autre homme. Alors ça nous bouleverse. Le cœur de l'homme est tortueux. Et Dieu ne comprend pas que les choses soient évidentes pour nous, mais que nous refusons d'accepter et de vivre dans ce qu'il nous donne gratuitement. Dieu ne le comprend pas. Et ceux qui font semblant, eh bien Dieu dit au verset, à la fin du verset que nous avons lu, « Il rendra à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Or, les fruits de l'œuvre sont manifestés eh bien, après les œuvres. Il faut que l'œuvre soit présente pour que ensuite le fruit se manifeste et qu'on voit quelle était la nature de l'œuvre. Les actes que nous allons poser produiront un fruit. Et à partir de ce fruit, on pourra déterminer si l'acte, au fond, était bon ou était mauvais. On détermine un fruit en fonction du travail qui est fait avant. Aujourd'hui, par la connaissance que nous avons, peut-être par les études, par l'observation, nous pouvons savoir que tel arbre est un pommier, nous pouvons savoir que tel arbre est un cerisier. Mais sans cette connaissance qui a mis du temps, parce que lorsqu'on était enfant, on ne pouvait pas déterminer tel arbre est de telle nature. Alors, dans cet état-là, lorsque le fruit n'était pas encore visible dans l'arbre, ben, il fallait qu'il y ait une production, il fallait qu'il y ait une activité de l'arbre pour qu'il puisse produire le fruit. Et lorsque le fruit est produit, on pouvait maintenant déterminer que cet arbre est un cerisier, cet arbre est un pommier, cet arbre est un poirier ou autre, à partir du fruit qui a été produit. Et le Seigneur fera la même chose. Les choses devront remonter afin que cela produise un fruit. Et à partir du fruit que nous manifesterons, Dieu dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Il le fera non seulement dans ce siècle présent sur la terre, mais il le fera encore au ciel. La parabole du bon grain et de l'ivraie nous montre qu'il y aura un jugement final et que dans ce jugement final, on déterminera ceux qui étaient de Dieu et ceux qui n'étaient pas. Donc, il y a la première phase où Dieu jugera ses serviteurs ou ceux qui le prétendent sur la terre. Il démontrera clairement par leurs œuvres et par leur fin s'ils étaient de Dieu ou pas. Comme il y a certains eh bien, que nous découvrirons simplement dans le ciel. Lorsque Dieu jugera, on saura qui était de Dieu et qui ne l'était pas. Mais pour que ce fruit se manifeste, comme la nature fonctionne, il y a ce qu'on appelle les saisons. Alors, nous sommes en France et nous savons qu'il y a 4 saisons. Et bien que ces saisons peuvent être désagréables pour certains ou quelquefois mieux pour d'autres, il y en a trop de soleil, ils n'aiment pas, il y en a trop de froid, ils n'aiment pas, il y en a qui aiment le froid, d'autres pas. Mais personne ne peut redresser ou courber ce que Dieu a créé. Donc les saisons telles que nous les vivons aujourd'hui, c'est Dieu qui les a créées ainsi. Mais ces saisons sont utiles et obligatoires pour, je dirais, apporter la contribution pour le maintien de la terre, en tout cas. Les saisons telles que nous les vivons aujourd'hui sont utiles à un arbre pour produire. Les saisons telles que nous les vivons aujourd'hui sont utiles aux agriculteurs pour pouvoir semer, pour pouvoir planter et pour pouvoir récolter. Et on ne peut pas les changer. Et dans toutes ces saisons, elles ont chacune leurs caractéristiques. Nous voyons qu'en hiver, les feuilles tombent des arbres. Ensuite, il vient le printemps où nous voyons que les fleurs commencent à sortir, le fruit, on voit déjà que la production qu'il pourrait y avoir. Et l'été vient où certains arbres vont produire du fruit et ainsi de suite. Mais toutes ces saisons sont utiles pour que l'arbre produise du fruit. Et c'est ce que nous vivons, je dirais, en quelque sorte de manière spirituelle, où le Seigneur va permettre des saisons. Ce que j'appelle saisons, je parle de temps où nous ne vivons pas spécialement la même chose, où le climat n'est pas forcément le même. Comme il nous a été dit dans Ecclésiaste, que Dieu a créé le bonheur et le malheur. Donc l'un et l'autre peuvent être comparées à des saisons que nous pouvons vivre de manière différente, afin, et comme Dieu dit, que nous ne sachions pas ce qui sera après nous. Et ceux qui plantent, bien-aimés, qui font des calculs en fonction de ce qu'ils ont planté, eh bien, peuvent très très souvent se tromper. Et nous voyons que ceux qui plantent calculent, ce n'est pas un calcul exact, parce qu'ils font ce qu'on appelle des prévisions. Donc une prévision, c'est-à-dire c'est une estimation de ce qu'il pourra être récolté. Ce n'est pas une certitude. Donc de cette même manière que lorsque les saisons passent, eh bien, il y a un changement climatique qui peut, eh bien, qui va agir sur l'arbre et qui produira du fruit ou qui en produira moins ou qui en produira plus. Et nous voyons comment l'homme est dérangé, comment l'homme est trompé lorsque la saison arrive plus tard que prévu. Combien d'agriculteurs on a vu aux informations pleurer parce qu'il a fait trop chaud pendant trop longtemps et finalement la récolte est un échec. Alors c'est ce temps-là, bien-aimés, que dure le climat que l'homme ne maîtrise pas. Et c'est dans ce temps-là que finalement il est comme dans le flou. Il est fondé que sur des estimations, que sur des prévisions. Et c'est ce temps-là même que les enfants de Dieu, que l'homme n'aime pas, être dans le flou, lorsqu'on est dans le malheur et qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est ça qui fait mal. Et beaucoup pendant ce temps-là se rebellent contre le Seigneur en disant « mais je ne comprends pas, pourquoi le Seigneur permet ? Ça fait trop longtemps. » Et même lorsqu'ils ne le disent pas de leur bouche, mais leurs fruits témoignent que là, il n'en peut plus. Là, il est à bout. Là, il n'a plus confiance. Parce que même s'il ne renie pas le Seigneur clairement, mais les contestations qui se manifestent témoignent que là, il en a assez avec ce que Dieu permet dans sa vie. Or, Dieu dit qu'il a permis l'un et l'autre de la même manière. Mais il faut que ces saisons, il faut que ces événements se produisent afin de faire ressortir le fruit, de manifester ce qu'il y a dans le cœur. Parce que c'est ça qui intéresse le Seigneur. Je l'ai dit tout à l'heure dans Malachie 3, le Seigneur dit qu'il viendra un temps où il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Bien-aimés, c'est un passage obligatoire. Dieu fera toujours la différence. Il nous dira toujours si nous sommes dans le vrai ou si nous sommes dans le faux. Il ne le dira pas forcément parce qu'il veut condamner. Dieu ne veut pas condamner, Dieu veut sauver. Il nous le dira pour que nous puissions changer. Mais malheureusement, lorsque cette saison arrive, où elle est plus dure que la saison où tout va bien, nous ne comprenons pas le jugement de Dieu qui est en réalité fait remonter à la surface les choses mauvaises pour nous amener à changer et nous les recevons comme une condamnation. Nous le recevons et nous regardons le Seigneur comme quelqu'un qui est méchant, comme quelqu'un qui ne prend pas soin de nous, comme quelqu'un qui ne fait pas attention à nous. Or, tant que nous sommes sur la terre et que Dieu nous prête souffle de vie, bien-aimés, c'est pour nous amener à ressembler à Jésus. Mais cette ressemblance-là ne se fait pas physiquement. Ce n'est pas, bien-aimés, par des régimes diététiques, on va ressembler à Jésus. La ressemblance à Jésus est dans le cœur. C'est la manifestation du cœur, le fruit que produira le cœur, qui déterminera si nous ressemblons à Jésus-Christ ou pas. Lorsque le Seigneur est venu et qu'il a dit à ses disciples, « Celui qui m'a vu a vu le Père », ce n'était pas de la manière physique, c'était celui qui m'a vu, ma manière d'agir, la manière dont j'aime, la manière dont j'ai compassion des hommes. Celui qui a vu mon souci pour l'humanité a vu le souci de Dieu, a vu la compassion de Dieu. C'était spirituellement que le Seigneur parlait, ce n'était pas physiquement. On peut chercher à bien s'habiller ou bien se coiffer, je ne sais pas de quelle manière, bien-aimé, ça ne fera pas autant que nous ressemblons à Jésus-Christ. La ressemblance, c'est la transformation du cœur. Et cette transformation du cœur, pour se faire, Dieu a fait un schéma par lequel nous devons passer, par lequel nous devons nous humilier pour totalement être changés et dire que oui, nous sommes enfants de Dieu. Et bien-aimé, que nous connaissons, je disais tout à l'heure que Dieu sonde le cœur et le rein. Il y a un certain niveau où nous ne savons pas vraiment quelquefois où nous en sommes. Il y a quelquefois nous sommes sincères et Dieu nous fera montrer que non, tu es dans l'erreur. Mais bien souvent aussi, nous savons où nous en sommes avec le Seigneur. Nous connaissons notre position, nos actes. Lorsque nous les posons, nous savons si elles sont dignes d'être d'enfants de Dieu ou pas. Et comme il est dit dans le psaume 15, le Seigneur veut que nous puissions parler selon la vérité du cœur. Alors lorsque nous contestons, lorsque nous cherchons à nous justifier, bien-aimés, nous ne parlons plus selon la vérité du cœur. Le cœur nous ramènera toujours à dire, ben non, mais là, tu as mal fait. Et ça, nous sommes capables de le ressentir. La Bible dit que l'Esprit Saint convaincra de péché, de justice et de jugement. Donc, lorsque nous posons des mauvais actes, lorsque nous produisons du mauvais fruit, le Saint-Esprit nous convainc que ça, ce n'est pas un fruit qui vient du Seigneur. Ce n'est pas un fruit digne de Dieu. Ça, c'est le fruit du monde. C'est le fruit du père du mensonge. Et ça, bien-aimé, nous en sommes conscients. Mais résister à ça, c'est résister à l'ordre de Dieu. C'est résister aux saisons que Dieu a imposées. Vouloir créer d'autres schémas pour contourner ce que Dieu a mis devant nous, bien-aimé, ça nous mènera à la mort. Aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent se plaindre parce que l'hiver est dur, parce qu'il fait froid. Bien-aimé, mais si on supprime l'hiver aujourd'hui, ça sera difficile pour trouver des bons fruits. Ça sera très, très difficile. Donc, toutes ces choses-là, même si elles peuvent être dures à vivre, elles sont indispensables pour que nous puissions bien manger et bien vivre. Et dans le schéma du Seigneur, c'est la même chose. Tout ce que Dieu permet ne peut être que bon pour nous amener à produire du bon fruit. Et Dieu permettra ces choses-là. Luc chapitre 12. Le temps dérange l'homme bien-aimé, mais nous devons accepter tout ce que Dieu permet. Dieu a fait toutes choses pour un but. Il n'y a rien d'inutile dans ce que le Seigneur permet et dans ce qu'il a créé. Nous voyons le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. Le Seigneur dit que ces 40 ans étaient pour les éprouver, pour les humilier, pour voir quelles étaient les dispositions de leur cœur. Donc pour faire ressortir ce qu'il y avait dans le cœur. Et bien que le peuple ne disait pas clairement à Moïse, nous ne voulons pas de Dieu, mais leur contestation témoignait qu'il y avait un problème quelque part. Même s'ils ont suivi, mais leur contestation, leur murmure était le fruit de ce qu'ils avaient dans leur cœur. Et bien qu'ils n'ont pas confessé clairement que nous ne voulons pas de Dieu, le Seigneur a fait durer cette épreuve. Ça a été une saison très très longue, très chaude dans le désert, bien-aimé. Mais lorsque Moïse est parti sur la montagne, rencontrer le Seigneur et qu'il tarda à revenir, lorsqu'il revint, il a trouvé un veau d'or. Israël, voilà le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Enfin, la circonstance, Dieu a crié et ce qu'il y avait au fond du cœur s'est manifesté clairement qu'il ne voulait pas de Dieu. Il voulait un autre Dieu. Toutes ces contestations-là n'étaient que des petites choses pour lesquels, si on leur avait dit « Vous ne voulez pas de Dieu », ils auraient dit « Non ». Et c'est comme ça que nous faisons quelquefois. « Ah, mon frère, là, tu contestes Dieu. » « Non, 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 je ne conteste pas, mais il y a telle chose. Il n'y a pas de problème. » « Ah, mais là, tu te rebelles contre Dieu. » « Non, non, non. » Donc, ce sont des petites choses que si on intervient, l'homme se défendra en disant « Mais non, ce n'est pas ça la pensée de mon cœur. » Mais Dieu amènera toutes choses à la lumière. Et à la fin, les choses vont sortir clairement. Vont sortir clairement de la bouche. Et la personne, des fois, quand elle confesse ça, elle-même est surprise, mais Dieu t'a eu ses sorties. Et c'est ce qu'il a fait avec le peuple. Ils ont murmuré. En Égypte, au moins, on mangeait. On avait de la viande. On a soif. Moïse, fallait nous laisser là-bas. On va mourir. La mer est là. Voilà l'armée de Pharaon qui arrive. Qu'allons-nous faire? Jusqu'au jour où, finalement, ce qu'il y avait au fin fond est ressorti. Ils ont fait un veau d'or et ils ont dit, c'est ça leur Dieu. Ils ont confessé clairement qu'ils ne voulaient pas de Dieu. Dieu fera ces choses-là, bien-aimés, pour manifester clairement. Vous imaginez comment le peuple a été rebelle dans le désert. Dieu a voulu détruire ce peuple. Moïse s'est humilié. Il a prié. Seigneur, si tu veux détruire ce peuple, alors enlève aussi mon nom du livre de vie. Le Seigneur a eu compassion. Il a écouté la voix de Moïse, bien-aimés. Il y a des choses qui ne pouvaient pas être évidentes pour Moïse. Mais lorsque Moïse a vu le veau d'or, il a compris que réellement, ce peuple-là était pourri. Ce peuple-là était mauvais. Il ne voulait pas de Dieu. Les choses ont été évidentes pour lui. Bien-aimés, il y a quelquefois, nous nous entêtons pour prier pour certaines personnes. Mais un jour, Dieu nous manifestera clairement l'œuvre de cette personne et on comprendra, bon, arrête de prier. Quelquefois, nous voulons soutenir. Nous voulons faire de bonnes choses qui peuvent paraître sincères, en tout cas à notre niveau. On ne comprend pas. Mais Dieu manifestera clairement, non, voilà ce qu'il fait, ça sera clair, pour que nous puissions comprendre. Donc Dieu, en quelque sorte, c'est comme si il justifiera son jugement pour que nous puissions aussi approuver. Bien-aimés, il y a des fois, je l'ai déjà dit, où nous prions pour certaines personnes. Nous suivons certaines personnes. On a quelquefois le souci. Seigneur, me fais quelque chose. Regarde la sœur, regarde le frère, comme il souffre dans les difficultés. On est dépassé parce qu'on voit la personne fidèle. On voit la personne montrer, en tout cas, une vie qui caractérise, qui montre qu'il est de Dieu. Et nous sommes trompés. Mais dans cette tromperie, bien-aimée, nous sommes quelquefois prêts à nous rebeller contre le Seigneur. Seigneur, on ne comprend pas pourquoi tu laisses ta personne souffrir comme ça. Bien-aimée, c'est arrivé plusieurs fois que Dieu révèle, montre clairement les œuvres de la personne. Et je l'ai déjà dit. Et quand j'avais réalisé ça, je confessais à un frère, je dis, mais vraiment, il y a des gens qui sont méchants. Laissez une personne jeûner pour toi, prier pour toi, des jours de délivrance, alors qu'il y a un péché qui est caché. Mais Dieu fera sortir cela clairement pour justifier qu'il te laisse dans cette épreuve-là, qu'il te laisse dans cette souffrance, parce que tu refuses de venir à lui. Dieu est juste, bien-aimé. Et lorsque je réalise tout ça, je comprends que non, on ne peut pas contester avec Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait est pour un but. Nous ne pouvons, même si c'est nous qui vivons ces choses difficiles, que nous humilier, de dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais ce que je sais, c'est que tu es bon. Donc, si je dois vivre ça, eh bien, je vais vivre ça pour que je sois totalement pur. Parce que c'est ça qui intéresse le Seigneur, c'est de purifier notre cœur. Et le Seigneur fera clairement remonter à la surface les choses, les fruits mauvais, et on comprendra, ben oui, ça c'est vrai, Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Luc chapitre 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte ?» Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Alors voilà l'histoire d'un homme qui amassait dans ses greniers. Bien aimé, on pourrait dire, mais on peut faire des provisions. Dieu n'est pas contre cela. On peut faire des économies. Dieu n'est pas contre cela. Et lorsque nous avons un regard à l'extérieur, bien aimé, nous ne pouvons pas discerner et comprendre quelles sont les réelles intentions. Lorsque certaines personnes disent « Non, mais j'épargne tout simplement de l'argent » sans justifier. Ou bien en se disant « C'est pour tel projet ou tel projet. » Quelquefois, c'est pour justifier devant les hommes qu'on n'a pas de problème avec l'argent, qu'on compte sur le Seigneur. Comme cet homme était en train d'amasser dans ses greniers. Et pendant tout le temps où il amassait, les gens de l'extérieur qui le voyaient amasser pouvaient se dire, ben c'est quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est prévoyant, quelqu'un qui gère bien son avenir. Il pouvait y avoir toutes sortes de théories. Mais voilà, la Bible nous dit que cet homme, lorsque la fin est arrivée, il s'est dit, ben maintenant, je vais bien me réjouir, je vais bien manger et je vais bien boire. La faim a démontré les réelles motivations qu'avait cet homme lorsqu'il l'amassait à côté. Et le Seigneur le fera bien aimé même avec nous. Si c'est sur l'argent que nous comptons, que nous plaçons en nous disant « bon, je vais garantir mon avenir », bien-aimés, nous sommes sur la terre. La Bible dit qu'il y a la teigne, il y a la rouille. Il y a des voleurs, il y a des brigands. Le Seigneur viendra un jour provoquer que quelqu'un touche à cet argent-là et la réaction déterminera. Est-ce que réellement tu étais fondé sur Dieu ou bien cet argent était réellement ton assurance? Le Seigneur le fera bien-aimé. Il y a des gens qui amassent. Un jour, la maladie viendra te clouer au lit où tu n'auras plus la force d'utiliser cet argent. Et la réaction déterminera est-ce que réellement tu te réjouissais en Dieu ou est-ce que c'était cette richesse-là qui faisait ton argent. Bien-aimés, comprenons, dans ce passage, on nous parle de richesse. Mais la richesse n'est pas forcément l'argent. La richesse, ça peut être l'intelligence. La richesse, ça peut être ce qui inconsciemment te garantit ton avenir. Il y a d'autres, leur richesse, c'est leur travail. Lorsqu'ils étaient au chômage, rien du tout. Et quand ils travaillent maintenant, tu vois que le comportement commence à changer. Parce qu'il est considéré comme quelqu'un dans la société. Parce qu'il travaille. Il est considéré. Mais viendra un jour où la crise économique va venir t'amener au chômage et on verra si réellement c'était le travail qui te faisait vivre ou c'était Dieu qui te faisait vivre. Un enfant de Dieu ne vit pas du travail. Il ne vit pas de ce monde. Il vit de Dieu. Le travail n'est que l'intermédiaire entre Dieu, c'est tout. C'est le moyen que le Seigneur utilise pour nous bénir. Mais un véritable enfant de Dieu vit de Dieu, il ne vit pas de son travail. Le travail est l'endroit où Dieu l'a placé pour aussi le faire travailler son cœur, pour aussi l'humilier, pour aussi le bénir. Et on voit à travers cet exemple-là que ça peut être duré. On va travailler 30 ans, on va travailler 40 ans, on va travailler je ne sais pas combien d'années avant d'être à la retraite. Tout ce temps-là va laisser croire que nous faisons tout pour Dieu. Mais viendra le temps de la retraite et on déterminera, Dieu montrera clairement si pendant toutes ces années nous avons travaillé pour lui ou si nous avons travaillé pour nous. La retraite arrive, c'est des voyages de gauche à droite. La vie de prière, la vie d'église, ça n'est plus parce que c'est la retraite. Et Dieu déterminera cela, bien-aimé. La Bible dit que soit que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Notre vie comme notre mort, Dieu l'a créée l'un comme l'autre. On l'a lu, le bonheur comme le malheur. Dieu a fait toutes ces choses-là avec sagesse et intelligence. Et on ne peut pas le changer. Et Dieu manifestera des saisons, des épreuves pour nous amener à ressortir finalement ce qu'il y avait au fond de notre cœur. Mais bien-aimés, je le répète encore, Dieu est amour et Dieu veut sauver. Lorsque le Seigneur nous montre une faiblesse, ne demeurons pas dans la culpabilité. La culpabilité, c'est l'orgueil. Ceux qui se culpabilisent, c'est l'orgueil. Ils refusent d'accepter la solution du pardon facile que Dieu lui propose. Ne demeurons pas dans la honte. La honte aussi est liée à l'orgueil. Parce que c'est notre moi. Que vont dire les gens? On va me regarder, on va me considérer comme tel ou comme tel. Ça, c'est la honte, bien-aimé, et c'est lié à l'orgueil. Mais lorsque ces choses-là ressortent, quelque chose peut-être qui est au fond de toi, que tu pensais avoir abandonné. Et Dieu le manifeste publiquement. Bien-aimé, mais ça, ce sont des sujets de louange. Ce sont des sujets de gloire dans lesquels on doit bénir. Seigneur, merci, j'étais mauvais. Je ne m'en rendais même pas compte, mais voilà, tu m'as montré mon péché. Ça, c'est l'amour de Dieu, bien-aimé. Mais lorsque le Seigneur manifeste ces choses-là, nous voyons la honte, nous voyons Dieu comme méchant, bien-aimé. Mais dans son amour, Dieu refuse que nous puissions demeurer dans un péché. Et il amènera cela à se manifester clairement pour que nous puissions nous repentir. Bien-aimés, si le Seigneur était un Dieu simplement du secret, mais aucun d'entre nous serons là aujourd'hui. Si jamais le Seigneur nous avait montré notre péché, comment on aurait pu se repentir? Comment on aurait pu accepter le Seigneur? Mais il fallait bien que pendant toute notre vie, qu'à un moment donné, le Seigneur nous montre que ça c'est mauvais, ça ce n'est pas bon. Il faut arrêter telle chose, bien-aimés. Et ce jour-là, nous avons loué le Seigneur lorsque nous avons accepté Jésus-Christ. Bien-aimé, mais ce phénomène-là, cette saison en quelque sorte se répète, bien-aimé, où le Seigneur, de la même manière qu'il nous avait convaincus lorsque nous étions païens, continuera à nous convaincre pendant que nous sommes ses enfants, mais avec des péchés qui traînent. La saison reviendra, bien-aimé, et nous devons l'accepter, nous humilier et surtout glorifier le Seigneur, parce que c'est ça, le sentiment d'amour. Quel parent aujourd'hui laisserait son enfant dans une bêtise pendant toute son enfance, lui laisser croire qu'il est dans le vrai? Et un jour, cet enfant va se retrouver sans rien parce qu'on ne lui a pas montré que l'école était importante. Il faisait des bêtises à l'école, il se comportait mal, il ne respectait pas les adultes et personne ne lui disait rien du tout. Et l'enfant grandit avec une telle éducation où il pensait être dans son droit, il pensait être dans la vérité. Mais voilà que le monde lui montrera que tous ces actes-là sont mauvais et il s'expose à vivre une vie difficile parce que le respect n'y est pas. Alors c'est toutes sortes de bêtises qui risquent de l'emmener en prison, qui risquent de l'emmener dans des graves problèmes parce que nous avons vu et nous n'avons rien dit. Alors bien-aimé, Dieu qui est bon, qui nous voit dans une chose mauvaise, nous laissera-t-il continuer comme ça pour que le jour du jugement dira le Seigneur, je ne savais pas, tu ne m'avais rien dit. Dieu est juste et il est amour. Et dans son amour et dans sa justice, il nous montrera que cette œuvre-là est mauvaise. Il nous poussera à manifester clairement le fruit pour que nous puissions changer et nous repentir. C'est ça l'amour de Dieu. Luc chapitre 16. Verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un homme nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Amen. Un homme riche et un autre homme qu'on appelle Lazare. Les deux sur la terre avaient deux vies totalement opposées. Pourtant, Dieu a créé le bonheur et le malheur de la même manière. Et ces deux hommes étaient l'un dans le cas de vie de bonheur, l'autre dans l'autre cas, dans le malheur, dans les souffrances. Alors, on peut se poser la question, ou bien tel que le monde le dit aujourd'hui, mais si Dieu existe, pourquoi tel est dans le malheur? Si Dieu existe, pourquoi une telle indifférence? Bien-aimé, mais à travers la réponse de l'homme riche à Abraham dans le séjour des morts, lorsque l'homme riche dit, mais envoie quelqu'un pour prêcher à mes frères. Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes, ils ont la parole de Dieu. Cet homme va répondre, non, envoie quelqu'un. Ce nom-là, bien-aimé, qu'il va dire dans le séjour des morts, c'est ce nom-là qu'il avait déjà dans son cœur pendant qu'il était en vie. C'est quelqu'un qui ne voulait pas de Dieu. C'est quelqu'un qui ne voulait pas entendre parler de Dieu, qui ne voulait pas manifester la bonté de Dieu. Les hommes veulent faire passer Dieu comme injuste. Pourquoi y a-t-il des bons? Pourquoi y a-t-il des riches? Pourquoi y a-t-il des pauvres? Mais si les hommes sont plus bons que Dieu, pourquoi le riche refusait-il de partager ses biens avec Lazare? Lazare ne demandait même que des miettes. Et cet homme riche refusait de lui donner. Et ce refus-là était le fruit de ce qu'il avait dans son cœur. Ce comportement de ne pas vouloir partager était le fruit de ce qu'il avait au fond de son cœur. Un homme avare, un homme égoïste, un homme qui ne voulait pas de Dieu. Bien-aimé. Et ce qui s'est produit pour cet homme, bien-aimé, soyons certains que le Seigneur le fera aussi avec nous. Notre manière de vivre, l'abondance, les fruits que nous produirons, Dieu démontrera clairement si nous sommes riches pour lui ou si nous sommes riches pour nous-mêmes. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. La Bible dit que ce que nous avons reçu, ce que nous pouvons donner, nous ne pouvons donner que ce que Dieu nous donne, bien-aimés. Il n'y a rien de ce que nous avons qui vient de notre propre force. Le Seigneur, lorsqu'il a délivré son peuple de l'Égypte, il leur a dit, je vais vous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Mais lorsque vous serez entrés là-bas, gardez-vous de dire que ce n'est pas votre propre force. Gardez-vous de vous dire que ce n'est pas votre moyen. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui là, nous pouvons louer le Seigneur. Nous respirons. Mais il y a des gens qui ont perdu la vie à 5 ans, à 7 ans. Il y a des gens qui ont perdu la vie depuis le sein maternel. Il y a des gens qui ont perdu la vie à 30 ans, à 25 ans. Nous n'étions pas meilleurs qu'eux. Mais nous sommes là aujourd'hui. Si Dieu nous a donné la vie, c'est pour l'honorer lui. Or, nous ne pouvons pas honorer le Seigneur avec notre propre conception. Tout ce que nous avons bien aimé, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui permet toutes choses, c'est lui qui donne toutes choses. Mais si aujourd'hui, nous sommes en paix, bien-aimés, mais si réellement cette paix vient de Dieu, elle produira aussi du fruit digne du royaume des cieux. Si nous sommes riches pour Dieu, bien-aimés, eh bien, on produira aussi du fruit conforme à la nature de Dieu. Cet homme n'avait pas la nature de Dieu. Cet homme était riche, égoïste pour lui, et il ne voulait pas de Dieu. Ils ont Moïse et les prophètes. Non, Père Abraham. Non, pas la parole. Et le Seigneur nous amènera aussi, créera des situations où il démontrera clairement si nous sommes fondés sur la Bible ou pas. On peut avoir une vie, comme on le dit souvent, la facilité que nous avons de pratiquer la parole lorsque tout va bien. Mais viendra un jour où les choses iront moins bien. Et le fruit démontrera si nous sommes fondés sur la parole ou pas. On peut se dire enfant de Dieu. Mais les conseils que nous donnons aux autres, est-ce qu'ils sont fondés sur la parole ou pas? La vie que nous témoignons, là où il n'y a pas le pasteur, là où il n'y a pas les frères et sœurs de l'assemblée, est-ce qu'elle est fondée sur la parole ou pas? Bien-aimés, on peut se dire « je suis chrétien ». Et être dans un péché, apporter toutes les justifications que l'on veut. Bien-aimé, l'état dans lequel nous sommes démontre si nous sommes enfants de Dieu ou pas. On peut chercher à se justifier, à parler pendant longtemps. Bien-aimé, la parole, la vie chrétienne, ce n'est pas une démonstration théorique. C'est une démonstration pratique. La parole de Dieu, on doit la démontrer en vivant. Le Seigneur n'a pas beaucoup parlé, mais son témoignage, sa vie, a démontré qu'il était vraiment de Dieu. Il n'a pas cherché à se justifier. Il n'a pas cherché à vouloir prouver quoi que ce soit. Il était ce qu'il était et ça, personne ne pouvait les changer. Les œuvres parlaient d'elles-mêmes. Les gens ont dit, il est du diable. Il fait ses miracles par la puissance du diable. Et bien cet homme qui a été guéri, qui était aveugle de naissance, a dit, mais en tout cas, on n'a jamais entendu en Israël quelqu'un qui guérit des aveugles nés. Aucun homme ne peut faire ses miracles si Dieu est avec lui. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il parle dans Jean 5, il dit « Les œuvres que je fais témoignent que je suis du Père. » Les œuvres parlent d'elles-mêmes. Alors, bien-aimé, on peut se justifier longtemps. On te dit que tu es dans un péché. Bien-aimé, accepte que tu es dans un péché. Je ne dis pas ça, bien-aimé, comme ça, comme des paroles en l'air, parce que ce sont des cas. Vous savez, il y a une chose étonnante que j'ai médité là-dessus la semaine dernière. Je me suis dit, mais après avoir débattu avec un frère, je me suis dit, mais finalement, on passe plus de temps à défendre la parole auprès des chrétiens qu'auprès des païens. Ça, c'est vraiment très étonnant. Oui, mais la Bible dit ça. Oui, mais pourquoi je souffre? Pourquoi Dieu prend plaisir? Il voit ses enfants souffrir, il laisse. Je dis, mais le Seigneur a vu aussi Jésus-Christ souffrir, il n'a rien fait, bien-aimé. Oui, mais. Quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai dit, mais c'est étonnant. J'ai passé 45 minutes à défendre la parole de Dieu à quelqu'un qui se dit enfant de Dieu. C'est vraiment très étonnant. Oh, les œuvres, bien-aimées, Dieu fera remonter à la surface pour démontrer si on est de Dieu ou pas. Quelqu'un qui passe son temps à dire oui, mais, alors que ce qu'il vit est biblique, bien-aimé, il n'est pas fondé sur la parole. Il n'est pas fondé sur la parole. Et si nous-mêmes, nous ne vivons pas ça, bien-aimé, c'est la raison pour laquelle beaucoup restent auprès de faux serviteurs et ils y demeurent. Parce qu'ils excusent tout. Le serviteur n'est pas fondé sur la parole. Le Seigneur amène les œuvres clairement pour manifester que ton pasteur n'est pas dans la vérité, mais tu restes là. Il y a un temps où les choses peuvent être difficiles à discerner. Ça, c'est la vérité. Comme nous tous, nous avons peut-être été trompés d'une certaine manière en pensant que tel était dans la vérité. Mais parce que Dieu est amour et parce qu'il veut nous sauver, si c'est ton pasteur qui est dans la fausseté, Dieu amènera les choses physiquement. Ça ne sera plus des rumeurs que tu entendras. « Ah, attention, j'ai vu ton pasteur faire ceci ou cela. » Tu le verras clairement. Et Dieu le manifestera clairement pour que ton choix aussi soit clair. Et le choix que tu prendras ce jour-là déterminera que toi aussi tu aimes la fausseté. C'est pourquoi tu restes à côté d'un homme qui est faux. Dieu amènera ça, bien-aimé, pour montrer les choses clairement. Clairement. Il y en a qui n'ont pas de discernement, ça peut être difficile, mais Dieu est juste. Et cette chose-là se manifestera pour démontrer ceux qui sont de lui et ceux qui ne le sont pas. C'est pourquoi, bien-aimé, que il est bon aussi qu'il y ait des faux serviteurs, parce que ça détermine aussi qu'il y ait des faux chrétiens. Et dans ce cadre-là aussi, on est dans la Bible, puisque la Bible nous montre qu'il y a le bon grain et l'ivraie. Donc c'est difficile à discerner, mais quand on voit des faux serviteurs qui font des bêtises clairement et voit un troupeau qui les suit, bien-aimé, on comprend aussi la nature de ce troupeau-là. Alors, d'autres vont dire, oui, mais peut-être que j'abuse, mais bien-aimé, c'est la Bible. Ou bien c'est pile, ou bien c'est face, entre les deux, ce n'est pas possible. Donc il faut bien qu'on fasse un choix. On ne peut pas être entre les deux. On ne peut pas excuser, bien-aimé, non. Les choses qui sont évidentes, on ne peut pas excuser. Quand c'est évident, c'est clair, on dénonce parce que les choses sont là. Amen. Luc chapitre 18. Un chef, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Amen. Cet homme croyait être juste. Il pensait être au top. J'accomplis tout ça depuis ma jeunesse. Il pensait avoir tout donné. Le Seigneur dit, il te reste encore une chose. Vends tous tes biens et suis-moi. La Bible dit que cet homme est devenu triste. Voilà ce qu'il y avait dans son cœur est ressorti. Le Seigneur l'a confronté juste à une question qui allait déterminer finalement ce qu'il y avait dans son cœur. Quelquefois, on croit avoir tout abandonné. Et lorsque le Seigneur te dit, bah, écoute, va t'humilier devant cette personne, demande pardon. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'était la chose qu'il ne fallait pas. Vends tous tes biens et suis-moi. on pense avoir fait le maximum. Mais Dieu nous dira, ben non, il y a encore telle chose. Et à partir de telle chose, bien-aimé, Dieu verra si réellement on a tout donné ou pas. Dieu a dit à Abraham, va, sacrifie le fils, celui que tu aimes. Abraham est parti dans la tristesse, dans la souffrance, mais c'était la volonté de Dieu. Il allait tuer son fils. Dieu lui a dit, arrête, maintenant je sais ce qu'il y a au fond de ton cœur, je sais que tu m'aimes. Dieu nous amènera, bien-aimés, dans des situations où les choses devront sortir pour déterminer clairement et quelquefois publiquement si nous sommes de lui ou pas, si réellement nous lui avons tout donné tel que nous l'avons chanté, tel que nous le confessons, bien-aimés. Oui, prends tout, Seigneur. Amen, dit l'Éternel. Dieu dit amen quand c'est comme ça, bien-aimés. La saison va arriver où il faudra que toi aussi tu confirmes la parole que tu avais dit. Confirme encore que c'était vrai. Confirme encore que c'était dans le cœur. Et Dieu le produira. Comme il a fait à cet homme, il te reste encore une chose. Vends tout et suis-moi. Cet homme s'en est allé triste. Et vous voyez, à la fin de ce passage, le Seigneur dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Nous avons lu plusieurs exemples, bien-aimés. Et dans les différents exemples que nous avons lus, il a été question de richesse. Comprenons, bien aimé, qu'il y a une chose qui peut polluer et pourrir le cœur d'un homme, ce sont les richesses. La richesse, je ne dis pas forcément l'argent, c'est tout ce que nous considérons richesse. Les choses sur lesquelles nous nous appuyons, les chaises sur lesquelles nous nous projetons dans l'avenir, qui sont pour nous comme une sécurité. Toutes ces choses-là peuvent nous pourrir. Et c'est à ces choses-là que le Seigneur viendra toucher pour manifester si clairement nous sommes de lui ou pas. Dieu ne partage sa gloire avec personne, c'est un Dieu jaloux. Et il n'acceptera pas que nous, qui sommes devenus enfants de Dieu, qu'un autre Dieu prenne la place, qu'à sa place à lui. Un autre Dieu avec un petit dé, prenne sa place à lui, le véritable Dieu. Dieu nous mettra en confrontation de choisir entre les petits dieux, les faux dieux, et lui, le véritable Dieu. Qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Ceux qui entrent dans le royaume des cieux, bien-aimés, c'est ceux qui ont le cœur pur. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Et à travers ce passage, le Seigneur dit encore, au dernier verset, il dit dans d'autres versets, il dit, eh bien, que malheur à celui qui n'est pas riche pour Dieu. Lorsqu'on parlait de le serviteur, le riche, pardon, le riche insensé. Ce malheur à ceux qui ne sont pas riches pour Dieu. Si ce qui peut être considéré comme une richesse dans ce monde, finalement n'appartient pas à Dieu, n'est pas géré par le Seigneur, alors c'est que notre cœur n'est pas encore pur. Et le Seigneur fera tout, mettra tout en œuvre pour nous amener clairement. Parce qu'il ne suffit pas simplement que le Seigneur le manifeste, bien-aimé, dans nos propres cœurs, mais il faut aussi que nous nous en soyons convaincus que oui, j'avais un problème avec telle chose. Il faut qu'on soit convaincu parce qu'on ne peut pas être purifié s'il n'y a pas une véritable repentance. Si on ne reconnaît pas l'erreur dans laquelle nous sommes, bien-aimé, on pourra nous dire, tu as tel problème, comme certains disent, bon, si c'est le cas, bon, je demande pardon. Bien-aimé, ça ne sauve pas. Si c'est une remarque, un reproche, tu t'assois clairement, tu médites là-dessus. Et il faut que tu aies la conviction que oui, c'est vrai. Et là, quand tu demandes pardon, oui, c'est un vrai pardon, c'est sincère. Mais pardon, bon, si c'est le cas, bon, d'accord, je demande pardon. Bien-aimé, ça, c'est faux. Ça, ce n'est pas bon. On doit être conscient lorsqu'on demande pardon à Dieu, lorsqu'on se repent, il faut qu'on soit conscient de la raison pour laquelle nous nous repentons. Se repentir avec des paroles en l'air, ça ne sauve pas. Le cœur peut être purifié lorsque le fruit manifesté que nous voyons en face de Dieu, oui, je reconnais que ça, ce n'est pas de Dieu. Seigneur, je demande pardon. Là, les choses sont claires et c'est une véritable repentance. Bien-aimé, on va clôturer avec deux passages. Le psaume, le premier... On va en lire qu'un, pardon. Psaume, chapitre 1er. Avant de lire le passage, je veux encore donner l'exemple, bien-aimé, de Job. La Bible dit que Job était un homme intègre. Job était un homme intègre. Il faisait les sacrifices pour le pardon des péchés de ses enfants. Et la Bible dit que Satan vient se présenter devant Dieu. Le Seigneur lui pose la question, mais tu viens d'où ? Je viens de parcourir la terre. Alors Dieu lui pose la question, est-ce que tu as vu ? Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job ? Est-ce que tu as remarqué ? Nous voyons la joie du Seigneur, on peut imaginer la joie du Seigneur lorsqu'il parlait de Job. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job ? Alors Satan va dire, mais Satan est bien avec toi. Satan t'aime simplement parce que tu le bénis. Job, pardon. Parce que tu le bénis. Alors, le Seigneur va dire, bon, vas-y, touche à ses biens. Mais lui, tu ne le touches pas. Alors, Satan va venir, sous la permission du Seigneur, prendre les biens de Job. Il va prendre tous ses enfants. Et Job se retrouve dans une profonde tristesse déchirée. On lui a tout enlevé. Job aura la réaction de dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Cette réaction spontanée de Job reflétait ce qu'il y avait au fond de son cœur. Et c'est dans ces réactions-là que Dieu nous attend, bien-aimés. Les réactions que nous avons lorsque quelque chose arrive. Pour voir quelle est la pensée profonde de notre cœur. Alors, lorsque nous lisons la suite du livre, on voit que Job passe par des moments difficiles. Ses amis viennent. Job semble quelquefois être dans la rébellion, dans la contestation. Mais moi, je pensais que ceux qui étaient justes ne vivaient pas le mal. Ils pensaient que la saison du bonheur était éternelle. Pour ceux qui étaient droits devant le Seigneur. Ils ne savaient pas que le malheur aussi atteint souvent le juste, mais que l'Éternel l'en délivre toujours. Alors Job, tantôt s'est rebellé, tantôt discutait, tantôt contestait. Mais à la fin, bien-aimé, Job a dit, « Seigneur, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. » Dieu savait ce qu'il y avait dans le cœur de Job. Lorsqu'il a dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job ?» Dieu avait cette certitude que Job avait le cœur pur. Dieu le savait. Mais voilà, pour justifier devant les hommes, pour justifier devant les démons que celui-ci est à moi, Dieu fera aussi des œuvres publiques. Il a fallu que Job vive toutes ces épreuves-là, physiquement, que tout le monde voit. Les gens pouvaient parler, mais Dieu l'a abandonné. Dieu n'est pas avec lui. Certainement, il a un péché. Mais la Bible dit que Job fut béni au-delà même de ce qu'il avait. Dieu a démontré clairement que celui-ci, oui, il est réellement intègre, il est vraiment de moi. Bien-aimé, c'est pourquoi, même si aujourd'hui on murmure, aujourd'hui on discute après nous, bien-aimé, Dieu connaît premièrement ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'est ça qui est le plus important. Mais Dieu est aussi tout-puissant pour le manifester clairement aux yeux de tous. Les gens ont murmuré contre Moïse dans le désert. Dieu a trouvé bon de donner cette relève à Josué. Les gens devaient peut-être murmurer parce qu'ils savaient que Josué était proche de Moïse. Mais il a eu un temps, bien-aimé, où l'Éternel a dit à Josué, « Dis au peuple qui se prépare, je vais opérer une délivrance. Et le peuple saura aujourd'hui que je suis avec toi. » Dieu rendra cela visible. Il manifestera les choses. Il provoquera des événements pour manifester clairement que nous sommes de lui ou pas. Dieu justifiera. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il lui fait, lui réussit. Amen. Et c'est le même passage que nous avons lu dans Jérémie 17. Et je clôture avec ça, bien-aimé, en disant que celui qui est planté près des courants d'eau, la Bible dit comme cet arbre-là, il donne son fruit en sa saison. Oh, bien-aimés, nous sommes plus que des arbres. Nous sommes plus que des animaux. Pour certains qui ont leur temps pour pondre, leur temps pour émigrer, leur temps pour hiberner, nous sommes plus que ça. L'homme, selon le Seigneur, celui qui a été régénéré par Dieu, bien-aimé, ne dépend pas des saisons, mais il dépend de Dieu. Ainsi, même si les saisons se multiplient, même si les saisons passent, d'autres arrivent, bien-aimé, il est là comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La Bible dit que son feuillage ne se flétrit point, parce qu'il produit du fruit en toute saison. Or, celui qui a compris Dieu, celui qui est fondé sur le Seigneur, n'est pas perturbé par le changement des saisons. Que ça soit l'hiver, été, automne, printemps, lui, il reste le même, fondé sur le Seigneur. Sa vision ne change pas, son cœur ne change pas, parce qu'il est toujours là près de Dieu. Il ne se rebelle pas, il comprend Dieu, même quand il ne comprend pas. Il loue le Seigneur, parce qu'il ne change pas. Il n'est pas influencé par les épreuves, par les événements que le Seigneur permet dans sa vie, parce qu'il est fondé là, près de l'Éternel, et il ne manque de rien. Tout ce dont il a besoin, le Seigneur lui donne. Et son feuillage ne se flétrit pas. Son feuillage reste vert, quelles que soient les saisons. Que ça soit en hiver, que ça soit dans le désert. Lui, il porte toujours du fruit. Parce que le fruit qu'il manifeste ne dépend pas du soleil, ne dépend pas de l'eau, ne dépend pas de l'air, mais il dépend totalement de Dieu. Or, lorsqu'on est dans le Seigneur bien-aimé, on ne peut produire que du fruit en tout temps. Parce que nous ne sommes pas limités. Souvenez-vous de la parabole. Lorsque Jésus-Christ a vu le figuier sécher, il a vu qu'il n'y avait pas séché, mais dans lequel il n'y avait pas de fruits. Il a dit que plus jamais de fruits ne sort de là. Bien-aimé, ça pouvait paraître étonnant. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que pour nous, il n'y a pas une saison plus qu'une autre où nous devons porter du fruit. Nous devons porter du fruit en tout temps. Or, ce fruit, tant que nous sommes fondés sur la parole de Dieu, tant que nous sommes près du Seigneur, tant que nous sommes dans sa volonté, obligatoirement, nous porterons du fruit. Parce que ça dépend du Seigneur. Lorsque nous sommes dans le Seigneur bien-aimé, alors pour nous, soit dans le malheur, soit dans le bonheur, pour nous, Dieu reste Dieu. Et il ne change pas. Dieu ne change pas. Bien-aimé, acceptons ce que Dieu permet pour avoir le cœur pur. Mais à travers ce psaume-là, Dieu nous donne la solution pour avoir le cœur pur. C'est de demeurer près de lui, c'est de demeurer dans sa parole. À Jésus-Christ seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Éternel Dieu de gloire, tu es vivant, Seigneur. Ta parole est la véritable et nous savons que c'est par elle que nous pouvons vivre et porter du fruit. Seigneur, nous sommes là aujourd'hui encore parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes là parce que nous reconnaissons que tu mérites la gloire et que tu mérites l'adoration. Seigneur, nous te bénissons parce que de génération en génération, Seigneur, tes promesses s'accomplissent. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ta parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi, Seigneur, nous savons, nous avons cette certitude qu'aujourd'hui encore, nous pouvons nous appuyer sur elle, Seigneur. Car nous croyons, Seigneur, qu'elle produira du fruit. Seigneur, toi-même, tu dis que comme la pluie tombe, Seigneur, et ne retourne à toi sans avoir arrosé, fait germer les plantes, Seigneur. Ainsi en est-il de ta parole qui sort de ta bouche. Elle ne retourne point à toi sans effet, sans avoir accompli tes objectifs. Seigneur, c'est pourquoi celui qui est planté dans ta parole, Seigneur, est comme cet arbre planté près d'un courant d'eau, Seigneur. Il est tout le temps abreuvé, Seigneur de gloire. Il ne sèche pas. Il ne tarit pas, Seigneur. Et il produit du fruit en sa saison. Ô Seigneur de gloire, à combien plus forte raison, nous qui sommes plus que des arbres, Seigneur, plus que des animaux. Tu accompliras ta parole en nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur de gloire, aujourd'hui encore, à rester fondés sur ta parole, à garder ta parole plus que tout, Seigneur, car c'est elle qui sonde le cœur et le rein. Ô Seigneur, c'est vrai que tu nous connais, Seigneur. Tu connais, Seigneur de gloire, tout ce qui peut être un obstacle pour l'évangile dans nos vies, Seigneur. Tu connais, Père de gloire, ce qui pourrait être un obstacle pour nous au jour du jugement. Seigneur, mais ce que tu veux, c'est que nous puissions nous repentir, que nous puissions réformer nos voies et marcher dans la vérité. C'est pour cela, Seigneur de gloire, que tu permets les épreuves, que tu permets le malheur comme le bonheur, Seigneur, pour nous aider à confesser nos péchés, pour nous transformer, pour nous restaurer. Seigneur, aide-nous à nous soumettre entièrement à ton schéma, Seigneur. Dans le nom de Jésus, la Bible dit, Seigneur de gloire, que tout ce que tu as créé est bon. Personne ne peut redresser, personne ne peut courber ce que tu as créé, Seigneur. Ô éternel Dieu de gloire, toi qui connais l'avenir, Seigneur, nous nous appuyons sur toi. Car tu vois tout ce qu'il y a devant, Seigneur. Et nous savons qu'avec toi, Seigneur de gloire, nous ne sommes pas conduits par un aveugle, Seigneur. C'est notre assurance, car c'est toi qui es le Dieu vivant, le maître des temps et des circonstances. Seigneur, à qui d'autre la gloire, à qui d'autre l'adoration, si ce n'est à toi qui nous a donné la vie, qui nous a donné l'Esprit Saint, afin de comprendre ta parole, afin de discerner ta volonté. Dans le nom de Jésus, Seigneur, ce matin encore, agis dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Car tu as dit, Seigneur de gloire, que lorsque le malheureux crie à toi, Seigneur de gloire, toi qui entends, Seigneur, tu le délivres de toutes ses détresses. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes saintes mains, parce que tu n'as pas changé. Aujourd'hui encore, tu es fidèle. Aujourd'hui encore, tu agis. Aujourd'hui encore, tu bénis, Seigneur. Aujourd'hui encore, tu consoles tous ceux, Seigneur de gloire, qui se confient en toi, comme il est dit dans Jérémie 17:7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia, Seigneur. Sois notre espérance encore ce matin, toi le Dieu fidèle.